France Musique. Musicopolis. La Monnaie, trois siècles d'opéra. Oui, vous avez raison. Vous racontez trois siècles d'opéra en 25 minutes, c'est un défi, je dirais même une gageure. Et d'ailleurs, amis, auditrices et auditeurs, considérez s'il vous plaît ce Musicopolis comme une introduction, prélude à une série que je pourrais bien vous proposer un de ces jours. Commençons donc très vite. La Monnaie, c'est le nom de l'Opéra Royal de Bruxelles. Le premier bâtiment de l'Opéra a été construit à la place de l'hôtel où l'on battait monnaie, d'où son nom. L'hôtel en question venait tout juste d'être détruit dans le bombardement de la ville par les troupes françaises de Louis XIV. C'était en 1695. En 1700, inauguration du théâtre flambant neuf, le premier opéra public de la ville, 1200 places, 5 étages de loges. Franchement, ils ne sont pas rancuniers, les Bruxellois. C'est avec Attis de Lully qu'ils inaugurent leur théâtre de la Monnaie en 1700. À peu près ce qu'on peut faire de plus symbolique de la gloire de Louis XIV. Même si, justement, après le bombardement de Bruxelles, cette gloire a légèrement pâli au sein des puissances européennes. À cette époque, Bruxelles fait partie des Pays-Bas du Sud, sous administration espagnole. On parle le français dans les classes les plus aisées, et le brabançon, un genre de néerlandais, est la langue véhiculaire. Si à peu près toute l'Europe du début du XVIIIe siècle est soumise à l'opéra italien, Bruxelles et sa monnaie, comme Paris et son Académie royale de musique, sont l'exception qui confirme la règle. Le répertoire est à peu près le même dans les deux théâtres, avec le règne sans partage des Lully, Campra, Mouret et compagnie. Et ça continue de plus belle lorsque les Français, à nouveau, entrent dans Bruxelles en 1745. Là, le maréchal de Saxe impose Charles-Simon Favart, l'auteur parisien bien connu, comme directeur de la Monnaie. La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit le succès des opéras et opéras comiques de Rameau, Grétry, Monsigny, Gluck, Gossec et Philidor. Les Français sont décidément bien invasifs pour les Pays-Bas du Sud. En 1793, les troupes de la Révolution française les annexent. Il est vrai que c'est dans le but louable de les libérer du joug autrichien. Et d'ailleurs, les dix Français font preuve d'un genre de diplomatie douce en envoyant dans la suite du général Dumouriez la célèbre Mademoiselle Montansier, directrice de théâtre parisien. Elle vient pour diriger à la Monnaie une troupe des artistes patriotes qui doit propager dans les provinces belges les grands principes révolutionnaires français grâce à un programme choisi de théâtre et d'opéra. L'expérience ne durera pas puisque les Autrichiens marchent à nouveau sur Bruxelles quelques mois plus tard. Mais entre-temps, Mademoiselle Montansier aura pu faire entendre tout un nouveau répertoire à la mode dans le Paris de la Révolution. Les chroniques des journaux bruxellois se plaignent du public des abonnés qui vient à la Monnaie, machinalement, par habitude ou par désœuvrement, sans jamais faire attention à la pièce. Ils se plaignent aussi de la salle. Écoutez ce qu'on lit dans un journal de 1807. C'est une espèce de bivouac que le théâtre de Bruxelles. L'air y pénètre de toutes parts, et quand un acteur lève les yeux au ciel, il peut apercevoir la Voie lactée et tout le firmament. Cet inconvénient est d'autant plus grave que la voix se perd, ne remplit pas la salle, et les stentors seuls ont le droit de se faire entendre. Le public, gelé par le local, a peine à s'échauffer pour l'acteur, et je ne vois parmi les applaudisseurs que ceux qui ont le courage de tirer leurs mains de dessous leur frac et trouvent, en les frappant l'une dans l'autre, un moyen de les réchauffer. Au début du 19e siècle, les critiques bruxellois se plaignent du théâtre de la Monnaie. Ses moyens sont trop limités. À propos d'une représentation d'Iphigénie en Olite de Gluck en 1804, l'un d'eux écrit « Ce n'est qu'au Grand Opéra de Paris qu'on peut jouer ce chef-d'œuvre. Ici, il est dépourvu de danse. Les chœurs, quoique bons, ne sont pas assez nombreux. Les acteurs sont d'ailleurs trop peu familiarisés avec ce genre pour pouvoir apporter dans son exécution cet ensemble et cette unité sans lesquelles ils en dégradent les beautés.
J'ai des beautés piquantes, de vives, d'agaçantes. J'ai des beautés piquantes, de vives, d'agaçantes. J'en ai de languissantes, d'autres dans les yeux doux respirent la tendresse. Je puis de sa hautesse contenter tous les goûts. Je puis de sa hautesse contenter tous les goûts. »
Il faudrait vraiment faire quelque chose pour améliorer la Monnaie. Justement, Napoléon, de passage à Bruxelles, suggère tout simplement de construire un nouveau théâtre derrière l'ancien.
« On prépare une fête à ce brave Français. » Qui par d'heureux efforts sauva de la tempête le vaisseau qui portait mes plus rares trésors.
Cette fête pourra peut-être vous distraire, que Florestan sera surpris de retrouver au Caire les talents et les arts qu'on admire à Paris.
Je veux qu'il soit frappé de ma magnificence.
L'inauguration du nouveau théâtre de la Monnaie a lieu le 25 mai 1819 avec la caravane du Caire de Grétry.
Oui, oui, toujours, toujours j'aimais la France. Le français joyeux, sensible et généreux, son air galant, sa noble essence, le font adorer en tout lieu. Il semble né pour plaire, sensible et généreux, des peuples de la terre. Il est le plus heureux, il est le plus heureux.
La nouvelle Monnaie de Bruxelles est un beau théâtre. Et on y présente le répertoire européen le plus récent. Les opéras italiens de Rossini, Bellini, Donizetti et les opéras français, comme La Muette de Portici, d'Aubert et Scribe, donnée à Bruxelles en 1829, à peine un an après sa première parisienne. Le succès de La Muette de Portici, d'Aubert, est grand, à la Monnaie de Bruxelles en 1829. Mais le sujet est sensible, la révolte au XVIIe siècle des pêcheurs napolitains contre le joug espagnol. Or, Bruxelles est à présent la deuxième capitale du royaume des Pays-Bas, sous domination hollandaise. On interdit La Muette, qui pourrait donner des idées au peuple. On l'autorise à nouveau. On la donne justement le 25 août 1830, pour l'anniversaire du roi Guillaume Ier. Le duo du deuxième acte, Amour sacré de la patrie, a commencé à bien échauffer les esprits. Au troisième acte, le public est survolté. Et lorsque le chœur entame « Courons à la vengeance, des armes, des flambeaux » et que notre vaillance mette un terme à nos maux, les spectateurs se lèvent comme un seul homme en criant « Aux armes !» La Muette de Portici, d'Aubert, a sonné au Théâtre de la Monnaie le début de la Révolution belge, qui aboutira à l'indépendance de la Belgique. L'œuvre va devenir une sorte de fétiche. Elle sera dorénavant jouée chaque année en souvenir de ce moment fondateur. Du sort. Le 21 janvier 1855, le théâtre de la Monnaie de Bruxelles est victime d'un incendie. Tout brûle, hormis les murs extérieurs et le péristyle à la grecque qui avait été conçu par l'architecte français Damem. Un concours est ouvert pour la reconstruction, remporté par l'architecte bruxellois Joseph Poulard. Le nouveau bâtiment est inauguré en 1856 avec un opéra de Fromental à Lévis. La salle rouge et or, avec ses cariatides, est considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Le répertoire est toujours celui des derniers opéras à la mode, donnés souvent quelques mois à peine après leur création parisienne. Et bientôt, on verra même quelques ouvrages en version française avant leur apparition à Paris. Comme le Rigoletto de Verdi, représenté en 1858.
Trompé par leurs beaux yeux, je leur dis croire, bornant ma gloire, à tromper encore mieux. Femme varique, femme varique, pour qui s'y fie à ce instant.
À partir de 1875, grâce à une série d'excellents directeurs, le théâtre de la Monnaie va vivre une période splendide, au cours de laquelle seront données de nombreuses créations mondiales. Alors que l'Opéra de Paris est à l'époque très frileux, la Monnaie n'hésite pas à faire entendre de nouvelles œuvres. Samson et Dalila de Saint-Saëns sera entendu en version de concert en 1878, 12 ans avant les premières représentations en France. C'est à la Monnaie que seront créées Sigurd et Salambo de Reyer, Gwendoline de Chabrier, Jocelyn de Godard, Ferval et l'étranger de Dindy, le roi Artus de Chausson ou Hérodiade de Massenet. Le théâtre de la Monnaie se trouve sur une grande place en plein centre de Bruxelles, dans un quartier qui attire grâce à ses boutiques, ses grands magasins et ses cafés. Chacun de ces cafés a sa clientèle bien spéciale. Les Mille Colonnes accueillent les officiers, sénateurs et hauts fonctionnaires, tandis qu'au Café des Arts se retrouvent tous les artistes, acteurs, peintres et gens de lettres. Avec le chemin de fer, la multiplication des lignes, des gares et les nouveaux accès à la ville, le nombre des étrangers a beaucoup augmenté et ils sont heureux de profiter de toutes sortes de divertissements. Bruxelles est très bien pourvue en théâtre et salles de spectacle. Mieux même que Paris lorsqu'on rapporte leur nombre au nombre d'habitants. La Monnaie fait partie des visites obligatoires pour ceux qui viennent à Bruxelles. Et les créations attirent du monde, dont beaucoup de Français, comme le décrit la Gazette en 1888 à l'occasion de la création de Jocelyn de Benjamin Godard. Des célébrités parisiennes en masse, musiciens, artistes, écrivains, librettistes, journalistes, on se les montre. Il y en a des barbus, il y en a des pâles, il y en a des rouges, il y en a des gros, il y en a des maigres.
Caché dans dans cet asile où Dieu nous a conduits. Unis par le malheur, durant les longues nuits, nous reposons.
Le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles pratique une politique de prix bas et donne même quelques représentations gratuites pour permettre à un public nouveau de découvrir l'opéra. Il semble que malgré le caractère plutôt élitiste du spectacle d'opéra, le public populaire saisit parfois l'occasion de franchir les portes de la maison. Et d'ailleurs, les limonaires, les bals et les cafés chantants reprennent tous les airs fameux de Faust, de Carmen ou de La Muette de Portici. La Première Guerre mondiale n'arrêtera pas la production, mais en raison de l'occupation allemande, on verra quelques nouveautés comme Le Chevalier à la Rose, dirigé par Richard Strauss en personne. À la Libération, bien sûr, La Muette sera au programme. La période de l'après-guerre est encore très fastueuse au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Beaucoup de premières et de créations sont encore données, de Ravel, Millau, Honegger, Prokofiev. En 1932, malgré la crise, un effort incroyable est produit pour monter Wozzeck d'Alban Berg, qui est pourtant, selon la revue musicale, le type même de l'œuvre à un succès. Il faudra plusieurs mois de travail, 44 répétitions d'ensemble, 41 répétitions d'orchestre et 3 générales.
Bien sûr que c'est très beau, la vertu, mon capitaine, mais je ne suis qu'un pauvre diable. Nous autres sommes vraiment malchanceux, ici-bas et dans l'autre. C'est nous qui, dans l'autre vie, devrons manœuvrer le tonnerre.
C'est bien, compris. Tu es un bon garçon, un bon garçon. Mais tu raisonnes trop, ça ronge. Et puis toujours tu t'agites. Tes paroles m'impressionnent. Va maintenant et cours un peu moins. Marche lentement en bas dans la rue. Suis bien ton chemin. C'est dit, hein, va sans hâte. Sans hâte.
Après la Deuxième Guerre mondiale, dont la fin sera célébrée bien sûr par une représentation de La Muette, il y aura un petit moment de creux dans la qualité des productions de la Monnaie de Bruxelles. Une qualité qui reviendra au top dès 1981 avec la nomination de Gérard Mortier à la direction. Mais ça, c'est une autre histoire. Le final du troisième acte de La Muette de Portici d'Aubert, le chœur et l'orchestre de Monte-Carlo dirigé par Thomas Fulton. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Monteil pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site, et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.